Nous avons cet épisode des pierres qui sont sorties du Jourdain. Alors en fait, ce Jourdain, il en est question deux fois. Hein. Dans le chapitre précédent, on avait parlé du Jourdain, on avait vu le Jourdain. Et en fait, il y a plusieurs étapes dans le Jourdain qui concernent des étapes de la vie chrétienne. C'est vrai que le peuple d'Israël l'a passé physiquement. Et il y a eu un événement qui est de la vie du peuple, hein, des enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés un jour au bord du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert et ils ont accompli les actions que l'on a lues, et puis ils sont sortis du Jourdain et le Jourdain s'est refermé. Ça, c'est historiquement, c'est quelque chose de très important dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël, le dernier lien qu'il y avait encore avec l'Égypte, eh bien, a été rompu. Il a fallu tout ce temps pour qu'Israël puisse être libéré complètement de l'Égypte. Alors vous noterez hein, une petite phrase intéressante, le verset 23, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, nous. C'est-à-dire qu'il n'y en restait plus beaucoup de ceux qui ont passé la mer Rouge. Il restait Caleb et Josué. Tandis que les autres, eh bien, il n'a pas dit vous. Le vous était enterré dans le désert. Mais c'est un nouveau peuple qui arrive au bord du Jourdain. Et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant le peuple. Et c'est une histoire très importante dans la vie d'Israël. Ce sont des événements qui ont marqué Israël. Et même il est dit que Dieu a élevé Josué aux yeux de tout le peuple après cet événement. Donc voilà, pour Israël, c'est un événement important. Mais c'est vrai que toutes les leçons que l'on a tirées et que l'on tire encore de ces trois chapitres, hein, chapitres 3, 4 et 5, eh bien, ce sont très très importants pour la vie chrétienne. Ce sont, comme disait Paul aux Corinthiens, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et ce sont des leçons que nous tirons de l'Ancien Testament et que l'on tire légitimement. Beaucoup de gens disent, oui, mais vous tirez des leçons, vous faites des parallèles avec la vie chrétienne, avec tout ça. Est-ce que c'est pas un peu arbitraire? C'est de l'histoire, tout ça. Hein? Voilà, il y a un événement, il y a telle chose, toutes ces choses se sont passées. Mais vous voyez même que l'histoire, par exemple, des pierres qui sont enlevées du Jourdain et d'autres qui sont prises et sorties du Jourdain, eh bien, on dit, mais pourquoi ils ont fait une pareille action? Si ce n'était que le fait de prendre 12 pierres dans le Jourdain et puis les poser ailleurs et puis prendre des pierres d'ailleurs, les mettre dans le Jourdain, on se dit, mais quel est ce rituel? C'est nouveau ça. Il n'y a pas de rituel. C'est tout simplement des images, des choses qui doivent nous servir d'exemple et des actions qui nous donnent des leçons. On a besoin d'apprendre toutes ces choses. Et c'est pour cela que l'histoire du Jourdain est très très importante pour notre vie chrétienne. Le Jourdain, c'est de l'eau. Et tout à l'heure, on peut parler des fleuves d'eau vive. Mais c'est vrai que l'eau, il y a deux. Est le symbole pour deux choses. Bon, pour d'autres, mais pour deux particulièrement. Le premier, c'est la parole de Dieu. Et le deuxième, c'est le Saint-Esprit. Et c'est même l'action du Saint-Esprit. Donc quand le peuple d'Israël a passé le Jourdain, eh bien, c'est une action spirituelle dans laquelle il y a un sens. C'est vrai que le peuple d'Israël était dans le désert. Il tournait dans le désert, il a tourné 40 ans dans le désert, beaucoup de personnes sont mortes, presque la totalité du peuple, et puis un jour ils sont arrivés devant le Jourdain. C'était le grand défi qu'ils avaient devant leurs yeux. Dieu leur a dit, voilà, vous êtes arrivés, voici le Jourdain, vous allez le passer. Mais quand vous aurez passé le Jourdain, c'est le pays de la promesse. Et alors, il se présente à leurs yeux un fleuve qui déborde, une inondation, parce que c'est la période des crues du Jourdain. Et tout semblait particulièrement compromis pour cette traversée du Jourdain. Alors, jamais le peuple d'Israël a été un grand peuple maritime. Si vous lisez l'histoire d'Israël, vous ne les voyez pas beaucoup sur la mer. Hein. C'est, il y a bien un roi qui a fait des bateaux, mais ils ont coulé pas loin des lattes. Et si on faisait quelques fouilles d'archéologie sous-marine, on les retrouverait là où ils sont restés. Mais c'était jamais un peuple maritime. Donc ils ne voyaient pas trop comment ils allaient traverser ce Jourdain. Ils étaient en face d'un problème. Et ils avaient de l'autre côté la promesse. Et c'est souvent comme cela dans notre vie chrétienne. Il y a les promesses de Dieu. Et il y a les évidences que les choses ne se passeront pas comme Dieu l'a dit. Les évidences matérielles, physiques, de toutes sortes. Et c'est un défi pour notre foi. C'est très important de relever les défis de la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est très très important de relever les défis de la foi. Parce que dans votre vie chrétienne, le défi que vous n'avez pas passé aujourd'hui, vous devrez le passer demain. Si vous ne le passez pas demain, vous le passerez dans 10 ans. Vous le passerez dans 40 ans. Mais vous le passerez quand même. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert, au moins 38 ans de trop. Parce que le défi, ils ne l'ont pas relevé. Mais le défi qu'eux n'ont pas relevé, leurs enfants ont dû le relever à un moment ou à un autre. Parce que de l'autre côté du Jourdain, il y avait la promesse. Et il y avait le Jourdain entre la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, et le peuple d'Israël. Et c'était le défi de leur foi. Et nous avons aussi les défis de notre foi. Et nous avons besoin d'apprendre à relever les défis. Et à de, vous savez, il y a un enthousiasme. Quand vous avez des problèmes et que vous confiez au Seigneur, il y a des moments où votre cœur se dilate et vous dites, bon, gloire à Dieu, il y a un problème. Seigneur, viens à mon secours, parce que c'est l'heure que tu viennes à mon secours. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la sagesse, j'ai rien, mais je t'ai à toi, et ça me suffit. Alors en ton nom, j'avance, et je crois en toi, je crois à ta puissance, je crois à toutes tes promesses, tout ce que tu as dit, et j'avance. Et on met le pied dans le Jourdain. Et alors, le miracle, c'est que dès qu'on a mis le pied, le Jourdain s'ouvre. C'est quelque chose, vous savez, ce sont les défis de la foi. Nous avons besoin d'apprendre la foi. Nous avons besoin d'apprendre à nous confier en Dieu, à regarder vers lui. Et Satan vous montrera toujours les évidences. Il vous montrera même les évidences que vous n'avez pas vu. Voilà, il y a le Jourdain. Il vous fera remarquer que justement ce Jourdain est en crue. Oui, mais vous ne l'aviez pas remarqué. Non, mais tu te rends compte. Mais si Dieu fait un miracle, que le Jourdain soit en crue ou qu'il ne soit pas en crue, il faut la même puissance. Alors, Satan essaye de nous terroriser par la crue du Jourdain, mais il faut la même puissance à Dieu pour ouvrir un Jourdain en crue qu'un Jourdain qui n'est pas en crue. Et même si le Jourdain n'avait représenté que, je ne sais pas, 10 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur, hein, c'est relativement raisonnable, le peuple n'aurait pas pu passer. C'est comme ça. Donc il fallait un miracle quand même. Et le même miracle que celui qu'il y a eu pour le Jourdain en crue. Et Satan essaye toujours de nous terroriser, de nous faire prendre les réalités de la vie comme des traquenards. Dieu nous a amenés à une impasse. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu as fait confiance et regarde où ça t'a mené. Ce sont des paroles hein, que vous entendez et que j'ai entendues et que j'entends encore. Mais notre réponse, c'est la foi. Se confier en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous apprenons des versets bibliques par cœur. Parce que ces versets bibliques, ce ne sont pas simplement des efforts de mémoire que nous accomplissons. C'est bien plus que cela. Si ce n'était que des efforts de mémoire, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais, et même, ce ne sont pas non plus des signes de piété. Quoi qu'il y ait de la piété, ce ne sont pas des signes de piété, hein, prendre des versets par cœur. Mais ce sont des aliments pour notre foi. C'est la base de notre foi. Nous apprenons la parole de Dieu par cœur pour qu'au moment opportun, cette parole vienne à notre esprit. Nous la connaissons, nous savons. Et Dieu parle, et il nous dit quelque chose, et nous saisissons sa promesse. Nous disons, Seigneur, je m'en empare, je crois. Tu l'as dit, je le crois. Et c'est d'autant plus certain qu'au moment où vous êtes dans l'épreuve, où il y a les tensions et les doutes et les attaques et toutes ces choses, eh bien, vous avez ce verset qui vient à votre esprit. Miracle, hein? C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui le met dans votre, en vous, qui vous le ramène à votre mémoire. Et ce verset est la base sur laquelle vous vous appuyez. Vous dites, Seigneur, je crois. Et si vous avez des craintes, vous pouvez dire, comme ce père, hein, disait, je crois, viens au secours de mon incrédulité. La petite fille était morte, ou elle était très malade. Elle est morte après. Mais viens au secours. Je comprends ma faiblesse. Je vois mes limites. Je vois que je ne suis qu'un être humain et je ne suis pas meilleur que les autres. Je me confie en toi. Ce qui manque, donne-le-moi. Et que je puisse vraiment m'appuyer sur toi. Vous savez, ce qui est important, c'est de reconnaître sa faiblesse. Ceux qui vivent dans l'illusion, ceux qui font des fanfaronnades spirituelles, ceux-là ne sont pas avec Dieu. Je me rappelle d'un homme qui disait, moi, le Seigneur m'a montré, il m'a parlé, et il m'a dit, que ma femme aurait un fils. Quelques mois plus tard, nous assistions à la naissance de cette jolie petite fille. On a beaucoup apprécié la petite fille. Mais c'était des fanfaronnades, le Seigneur m'a montré et il était dans des élans d'enthousiasme insensés. Parce que ces choses-là, ça n'a aucune importance. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est Dieu, c'est sa volonté. Que Dieu soit béni et loué, quoi que ce soit qui arrive, c'est une bénédiction de Dieu. Mais c'est d'ajouter des fanfaronnades. Se dire oui, le Seigneur me guérira, le Seigneur fera ceci et le Seigneur fera cela. Et je me rappelle même avoir entendu des prières qui m'ont scandalisé. Et Seigneur, tu vas faire et nous t'ordonnons que tu fasses. Tout ça, c'est, je peux vous dire, il y a des fanfarons de la vie chrétienne. Et ces personnes-là ne côtoient le blasphème de très 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 près. Parfois même, ils franchissent le pas et dans leur bouche, vous entendez des paroles, c'est leur orgueil qui a parlé. C'est leur enthousiasme orgueilleux. Ce sont des fanfarons. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est donc gardez-vous bien de cela. C'est la foi, ce n'est pas une fanfaronnade. On se confie en Dieu. On met sa place, sa confiance en lui. On s'appuie sur sa parole, pas sur nos élucubrations, pas sur notre enthousiasme, pas sur nos délires, mais on s'appuie sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est bien suffisant, vous savez. Vous n'avez pas besoin d'ajouter à la parole de Dieu tous les délires et les enthousiasmes de certains. Dieu a suffisamment parlé pour que nous ayons une matière suffisante, pour que notre foi soit alimentée, que nous puissions placer notre foi. Donc, commencez par la parole de Dieu. Et si Dieu vous montre quelque chose de spécial, il vous le montrera en son temps, au moment que lui, il a choisi, s'il vous le montre. S'il y a quelque chose à vous montrer. Mais le peuple d'Israël est arrivé au bord de ce Jourdain selon la promesse que Dieu avait faite à Moïse. Il avait dit, et même depuis Abraham, Dieu avait promis le pays de la promesse. Entre le pays de la promesse et le désert, il y avait le Jourdain. Et obligatoirement, à un moment ou à un autre, ils devaient rentrer dans le pays de la promesse. Et ils avaient le Jourdain en face d'eux. Parce que Dieu avait parlé. Il avait fait une promesse. Et c'est cette promesse-là que le peuple a pu s'approcher du Jourdain et attendre sur les rives du Jourdain. Si il n'y avait pas eu la promesse de Dieu, attendre sur les rives du Jourdain une éventuelle ouverture des eaux aurait été un acte insensé. Mais il y avait une promesse. Il y avait la parole de Dieu. C'était incontournable. Il devait passer le Jourdain. C'était le passage obligatoire. Et donc, c'était un acte de foi. D'abord, suivre ce que Dieu disait dans sa parole, et ensuite s'approcher du Jourdain et dire Seigneur, ouvre-le, ou fais quelque chose, n'importe quoi. Mais il faut que l'on soit de l'autre côté à un moment ou à un autre. Et au fur et à mesure que les événements se sont passés, eh bien, vous avez les espions à Jéricho. Et là, ils étaient beaucoup plus certains que le Jourdain, de toute façon, il faudrait le passer. Et quand Josué a envoyé les espions, selon l'ordre de Dieu, eh bien, le Jourdain, il n'avait pas encore la solution, hein. Il n'a pas dit au peuple, de toute façon, le Jourdain, ne vous inquiétez pas, il va s'ouvrir. Il n'a rien dit. Il ne les a pas avertis. C'est le peuple tout entier était dans l'attente de l'action de Dieu. Et Josué, comme le dernier des enfants d'Israël, eh bien, ils attendaient que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu avait parlé. Il avait donné suffisamment d'indications pour que ils puissent dire, il y a une promesse positive de Dieu que le Jourdain, il va s'en occuper. Parce qu'il nous a dit, on va passer de l'autre côté. Ou plutôt, le pays de la promesse est de l'autre côté. Alors le passage, ce n'était qu'une étape. C'était compris dans le fait de suivre Dieu et d'obéir aux promesses de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ils n'ont pas imaginé quelque chose. Ils ne se sont pas placés dans une situation épouvantable où ils ont mis Dieu en demeure d'exaucer leur prière. Ils ont été suivis Dieu dans sa parole, dans ses promesses, dans ce que Dieu a dit. Ils ont été fidèles jusqu'au moment où ils ont été devant le Jourdain. Et le Jourdain faisait donc partie du plan de Dieu, de l'action de Dieu pour eux. S'ils avaient passé, imaginez, je pense que la mer morte n'est oui, la mer morte n'est pas un endroit facile à passer. Mais imaginez que Dieu ait dit de passer par la mer morte plutôt que par le Jourdain. Eh bien, il aurait trouvé une solution. Mais il a dit par le Jourdain. Alors, c'était par le Jourdain. Ils sont arrivés jusque-là. Et c'est, ils ont suivi, ils ont obéi à Dieu. Ce qui est très important, c'est de marcher un pas à la fois. Et au fur et à mesure que l'on marche, eh bien, Dieu donne les délivrances dont nous avons besoin au moment opportun, au bon moment. C'est, comme on disait le cantique, hein, ça n'avait pas arrêté d'avoir des bons cantiques, c'est chaque chose en son temps. Et un jour, ils arrivent au Jourdain, et le problème du Jourdain est arrivé à l'heure du Jourdain. Après, l'heure de Jéricho n'était pas au moment du Jourdain. L'heure de Jéricho, Dieu n'a rien. Il savait, Dieu en fait envoyer des espions à Jéricho, parce que dans le plan, ils se sont bien doutés, et toutes les indications de ce que Dieu avait dit les amenaient devant Jéricho. Mais Dieu n'a encore pas dit grand-chose sur Jéricho, parce que le moment du Jourdain, c'est ce moment pour le peuple d'Israël, un moment donné. Ce n'est pas encore Jéricho. Jéricho viendra en son temps. Maintenant, c'est l'heure du Jourdain. Et au moment du Jourdain, eh bien, il ne faut pas rater l'étape du Jourdain en voulant conquérir Jéricho. Et beaucoup de chrétiens ont voulu conquérir Jéricho avant de passer le Jourdain. Vous ne pouvez pas faire comme cela. C'est chaque chose à son moment. Et si vous marchez votre vie chrétienne un pas à la fois dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la foi en Dieu, eh bien Dieu vous conduira fidèlement, de pas en pas, jusqu'à votre dernier jour, et votre vie sera bien accomplie, bien remplie. Parce que vous marchez à la lumière du Tout-Puissant. Vous êtes conduit par Dieu. Et ça, c'est le plus important. Donc, quand ils sont arrivés au Jourdain, eh bien, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est une étape spirituelle, hein. Ça fait partie de ce que l'on appelle dans le Nouveau Testament la plénitude de l'Esprit, comme l'eau du Jourdain est une image du Saint-Esprit. C'est immergé dans l'Esprit, hein, rempli du Saint-Esprit. C'est ce passage, voilà. Et c'est un moment où on quitte une vie passée. Ça ne veut pas dire que l'on n'était pas chrétien avant, on était chrétien, mais notre vie était une vie, même s'il y a des victoires, même s'il y a peu de défaites, il y a eu des défaites, mais c'est une marche chaotique. Il y a des moments où on passe de longues périodes où Dieu ne parle pas. Pendant ces 40 ans dans le désert, il y a de longues périodes où Dieu n'a pas parlé. J'imagine que même le peuple d'Israël est resté plusieurs années au même endroit. Et puis un jour Dieu leur dit de partir, ils partent à un autre endroit. Mais ils n'ont pas fait que voyager. Même s'ils étaient sous des tentes, eh bien, il y avait une certaine installation pendant un certain temps. Donc, ils attendaient quelque chose. Voilà. Ils attendaient que le temps passe parce qu'il y avait des choses qui avaient été mal faites et il fallait que la génération qui avait été incrédule, eh bien, disparaisse. C'était cette attente. Ils attendaient quelque chose. Mais dans la vie d'un chrétien, c'est vrai qu'il y a des attentes, mais pas autant que cela. Il y a par exemple des attentes, des réponses aux prières. Vous avez une prière pour un sujet spécial et parfois la réponse se fait attendre. Mais dans votre vie chrétienne, les pas que vous devez faire, eh bien il n'y a pas d'attente. C'est un pas à la fois. Comme vous marchez pour aller par exemple d'ici chez vous, vous allez marcher, vous allez prendre des transports en commun, mais vous allez faire les choses les unes après les autres jusqu'à ce que vous arriviez au but. Mais à moins vraiment d'être très fatigué ou d'être malade, vous n'allez pas faire de longues pauses. Vous allez y aller, c'est tout. Et la vie chrétienne, c'est comme cela. On marche. On marche, on fait un pas à la fois. Je peux dire que j'ai fait depuis quelques mois le chemin jusque au métro à côté et je ne peux pas vous dire le nombre de pas que j'ai fait. Mais je ne les ai jamais comptés. Hein. Bon, ça ne m'intéresse pas de les compter. Mais je sais que il n'y a pas un pas qui manque. C'est un pas à la fois. Et il faut les faire tous pour arriver jusqu'au bout. C'est la condition pour arriver au bout. Si on s'arrête en chemin, on s'arrête une demi-heure, et bien ça fait une demi-heure avant d'arriver au but. Vous êtes arrêté une demi-heure, mais ce n'était pas obligatoire. Et dans la marche chrétienne, eh bien, c'est un pas à la fois, régulièrement. Voilà, et c'est tous les jours. Vous avez votre programme pour toute votre vie, c'est un pas à la fois. Et c'est le passage du Jourdain est une étape dans la vie du peuple d'Israël, mais il symbolise aussi une étape dans notre vie chrétienne. Et c'est une étape incontournable. C'est une étape très importante. Nous passons de la vie charnelle à la vie spirituelle. Quand je dis charnelle, c'est la vie où on fait sa propre volonté, où on choisit son propre chemin. Et on dit, bon, je crois que ça, c'est le bon chemin. Ah ça, non, non, je pense que c'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ce chemin? Alors la personne dit, non, tu te trompes complètement, c'est plutôt là-bas. Hein. Et puis, vous avez autant de personnes, autant d'avis différents. Et quand vous n'avez, avant de demander, vous aviez une idée à peu près précise. Quand vous avez fini de demander, vous ne savez plus du tout où vous êtes. C'est comme cela. Si vous m'êtes arrivé de chercher mon chemin, je demande à une personne, ah oui, mais je crois que c'est par là-bas. Alors vous allez par là-bas, vous ne trouvez pas quand même. Hein. Vous dites, mais oh non, non, par là-bas tout à fait. C'est comme cela qu'on est perdu. Et c'est la vie charnelle. On suit ses propres impulsions, on a ses pensées, on sait comment on va vivre la vie chrétienne. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'on a de la mauvaise volonté, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'on manque de prière, au contraire. On peut prier beaucoup. On peut même beaucoup lire la parole de Dieu. On peut même avoir beaucoup d'activités chrétiennes, mais être quand même charnel. C'est-à-dire qu'on dépend de soi-même. On n'est pas totalement à la disposition de Dieu. C'est notre vie chrétienne. Alors, je n'ai même pas parlé du péché, hein. S'il y a un péché, c'est justement cette indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est de vouloir faire l'œuvre de Dieu par nos propres efforts. Faire les choses en comptant sur nous, en comptant sur notre manière de déduire des situations, comment nous pouvons faire, aller à droite, à gauche, etc. Il y a des personnes qui, un jour, elles vous disent une chose, puis le lendemain, elles peuvent vous dire une autre. C'est parce que, ou d'autres vous disent, oh oui, non, je vais faire ça, et puis elles le font toute leur vie. Mais c'est leur pensée, c'est leur désir, voilà. Elles ont choisi. Je me rappelle d'un homme, il avait une vingtaine d'années, il a écrit tout un carnet et ce qu'il voulait faire pendant sa vie. Mais il a écrit tous les livres qu'il voulait écrire. C'était un écrivain américain. Il a écrit tous les titres des livres. Et il a écrit les livres dont il a mis le titre à 20 ans. Je ne me rappelle plus jusqu'à quel âge il a vécu, mais il a écrit selon son plan. Voilà. C'était lancé, il a décidé, il a fait son choix, son plan. Et il y a des personnes très sages, très logiques, hein, Elle dit, voilà, je ferai ceci. Alors, ce qui est vrai pour un écrivain n'est pas vrai pour la vie chrétienne. C'est Dieu peut vous étonner. Si aujourd'hui vous faites cela, vous n'êtes pas sûr que demain vous allez faire la même chose. Dieu nous a appelés à être des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Et vous pouvez plier votre tente peut-être plus vite que vous le pensez. C'est on ne connaît rien, on ne sait pas. Et c'est parfois la voix de Dieu, il y a une injonction, il nous dit va, et on va. Et si on ne va pas, on n'est pas à son aise. Doit toujours être attentif à ce que Dieu dit. Mais c'est beaucoup plus sage que de suivre ses propres pensées, ses propres impulsions. Alors ça ne veut pas dire que Dieu prend nos pensées et que nous ne pensons plus. Hein, ça, beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne est une vie passive. Au contraire, c'est une vie très active et où Dieu utilise beaucoup notre intelligence, où il fait beaucoup appel à notre intelligence, mais une intelligence soumise, pas une intelligence indépendante, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, mais c'est une intelligence sous contrôle. C'est des sentiments que Dieu nous donne. Et je pensais tout à l'heure à ce verset de l'amour de Christ nous presse. C'est car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est l'amour de Christ nous presse. On n'a pas des sentiments, au contraire, même très forts. Je pense à des personnes qui sont allées dans des pays très éloignés. Je me rappelle, vous avez peut-être entendu parler d'Adoniram Judson. Adoniram Judson était américain au 19e siècle, début du 19e siècle. Il a quitté son pays pour toujours. Il n'est jamais revenu. Il est mort là-bas. Et non seulement lui, mais sa femme, il s'est remarié et puis hein, les enfants et tout le monde est mort. Hein. Il les aimait, ces Birmanais, hein, ces Birmans. Il les avait à cœur. Si Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, lui au moins, il a livré sa vie pour que Dieu l'utilise pour le salut des gens de la Birmanie. C'est quelque chose, vous savez. C'est l'amour de Christ qui presse. Et Dieu peut nous donner des sentiments très, très forts, très puissants, qui nous amènent même jusqu'à la mort. Parce que. Et parfois, il faut aller jusqu'au bout pour que les âmes puissent être sauvées. Il faut prendre sur soi, il faut vraiment les aimer. Hein. Vous dites, mais comment des gens ont pu faire ce qu'ils ont fait? Mais l'amour de Christ brûlait en eux. Ils avaient la volonté de Dieu était plus importante que tout ce qui pouvait les rebuter et les amener en arrière. C'est suivre Christ et obéir à Christ était plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont allés jusqu'au bout. C'est parce que il y avait l'amour des âmes, l'amour de Christ, l'obéissance à Christ et la pensée de Christ en eux. Et Paul pouvait dire, nous avons la pensée de Christ. C'est donc Dieu ne néglige pas ces choses-là dans notre vie. Elles sont très très bonnes, mais sous contrôle. Tandis que quand elles ne sont pas sous contrôle, et que sous contrôle de Dieu, elles sont sous notre contrôle à nous. Alors à ce moment-là, c'est l'anarchie. Et même parfois, on est plus un handicap pour l'œuvre de Dieu que celui qui ne fait rien. Parce que il m'est arrivé de quelqu'un qui était très charnel, hein. Je pense même qu'il était inconverti. Mais il faisait des fausses factures, des machins comme ça, et puis il témoignait. Mais je savais qu'est-ce qu'il faisait. Il était en train de témoigner devant moi, mais je me dis, mais qui se taise? Je veux pas qu'il dise ça, parce que c'est pas dans sa bouche que ça doit être ça. C'est dans la bouche de quelqu'un d'autre, mais pas dans la sienne. Ses mains faisaient des choses qui étaient mauvaises. Il transgressait la loi de Dieu, la loi humaine, et il allait annoncer l'évangile. Pour moi, c'était vraiment. Et il faisait plus de mal que de bien. Quand les gens avaient une fausse facture ou un travail mal fait, eh bien, ils se rappelaient, ah oui, il m'a parlé de Dieu. Je préfère qu'ils disent rien, hein, quelqu'un comme ça, hein, c'est dangereux. Mais c'est la vie charnelle. Ah bon, ça c'est un extrême, hein, je ne dis pas que tout le monde qui a une vie charnelle fait comme cela. Hein. Mais on agit selon nos sympathies ou selon nos antipathies. On est attiré vers certaines personnes et pas vers d'autres. C'est la vie charnelle. Elle fait une sélection, une discrimination, tandis que l'œuvre de Dieu ne permet pas ce genre de choses. L'amour de Christ nous presse. Point final. Nous avons la pensée de Christ. Ça ne va pas plus loin. C'est la pensée de Christ. C'est nous savons la volonté de Dieu. Et Dieu, parfois, eh bien, donne sa volonté pour des choses que vous aviez choisi peut-être une autre voie, et Dieu met complètement en bas tous vos plans et dit non, ça va être dans cette direction-là. Et cette direction-là, vous dites, mais Seigneur, je ne sais pas trop comment faire. Mais puisque tu me le dis, j'y vais. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, et puis les gens vous disent, c'est quand même curieux que tu aies cette idée, hein. Parce que vraiment, c'est là que ça allait porter du fruit, là, hein. C'est là que vraiment Dieu a pu faire une grande œuvre. Mais au départ, on ne savait rien du tout. Et on était dans le doute et on se dit, Seigneur, tu me conduis, je ne sais pas, hein, mais je compte sur toi. C'est comme cela, Dieu dirige et beaucoup d'œuvres chrétiennes qui ont été bâties spirituellement ont eu une durée et une efficacité hors du commun parce qu'elles étaient faites selon la volonté de Dieu et donc avec le regard de Dieu, l'approbation de Dieu, le secours de Dieu, la continuité de Dieu. Est-ce que les œuvres humaines qui sont faites avec nos efforts, on dit Seigneur, bénis notre travail que tu ne nous as pas commandé. Ben oui, c'est ça. Si vous voulez être logique dans certaines prières, c'est on a entrepris ça, bénis-le maintenant. Mais je pense que si avec vous, je vois des sourires et tout cela, vous comprenez l'absurdité de la chose. Mais c'est absurde, mais nous le faisons quand même. Et c'est là qu'est tout le drame. Parce que nous savons que s'il ne faut pas le faire, et nous le faisons quand même. Je me rappelle, c'est Moody. Il était un jour avec un homme, à tous ceux qui, je vois, les visages qui s'éclairent, je vois que l'histoire, ils la connaissent. Mais il était avec un homme, et cet homme lui a dit, on ne sait pas encore ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui est totalement livré entre les mains. Et la phrase, hein, je l'ai un peu massacrée, mais le Moody s'est arrêté. Il lui a dit, répète un petit peu ce que tu as dit. Et il a dit, voilà, on ne sait pas encore ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui est totalement livré. Et il lui a dit, ben, je serai cet homme-là. Il y a des gens qui ont le courage de mettre leur vie totalement dans la main de Dieu et de se confier totalement en Dieu. Et de regarder vers lui pour tout. Et dire, Seigneur, conduis ma vie. Et pour le monde, c'est complètement insensé. Insensé. Mais aux yeux de Dieu, c'est la plus grande sagesse. Dieu a voulu collaborer avec nous, travailler avec nous, mais à condition que ce soit lui qui dirige la chose. Mais Dieu ne fait rien sans l'homme, hein? Rien. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a dit de cultiver le jardin. Mais il n'a pas cultivé lui. C'est l'homme qui devait le cultiver. Et tous les soirs, il rencontrait Dieu et il devait parler du jardin. C'est l'œuvre de Dieu va jusqu'à un certain point. Après, c'est l'œuvre de l'homme, sous le regard de Dieu, sous le contrôle de Dieu, toujours. Ce ne peut pas être autrement. Et c'est une étape très importante, aussi importante que de traverser un Jourdain en crue, que de dire Seigneur, je renonce à moi-même et je remets ma vie entre tes mains, fais-en ce que tu veux, qu'elle soit à ta gloire. Conduis-moi, dirige-moi dans mes pensées, dans ma volonté, dans mes sentiments, dans tout mon être. Prends toute la place dans ma vie et dirige tout. Et je peux dire, c'est un moment décisif dans la vie d'un chrétien. Décisif. C'est un peu, dans bien des côtés, ça ressemble à la conversion. Mais c'est là que l'on accepte que Dieu prenne tout le contrôle de notre vie. Ça change tout, vous savez. Ça change tout. Le monde est plus beau, plus lumineux. Les gens, on ne les voit plus de la même manière. C'est combien on a tendance à parler mal de ce monde perdu. Eh bien, il est perdu. Qu'est-ce que vous voulez? Mais un jour, ce monde, on l'aime. On l'aime parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacune de ces personnes que nous côtoyons. On dit, oh, mais celui-là, il est ceci, celui-là, il est ça. Pas aux yeux de Dieu. Pour Dieu, Jésus-Christ valait, cet homme valait la mort de Jésus-Christ. S'il n'y avait eu qu'un pécheur sur la terre, c'était cet homme-là, Jésus-Christ serait mort pour lui. Sans hésitation, il serait allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, pour cette âme que nous avons tendance à mépriser. Mais dès que Christ remplit notre vie, que c'est lui en nous, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir de ce moment-là, nous avons l'amour de Christ qui nous presse vers les âmes. Nous les aimons et nous découvrons à quel point Dieu les aime et Dieu peut les aimer au travers de nous. Il nous donne les sentiments, il nous donne les pensées, il nous donne la volonté, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais à condition qu'on lui ait tout remis. Et tant qu'on n'y a pas tout remis, nous restons devant un Jourdain en crue. Et c'est pour cela que vous savez que le Jourdain était en crue. Que ce n'était pas une simple petite rivière d'été qui. On voit les pierres et on peut passer à pied sec pratiquement. Ce n'était pas le cas. Parce que c'est quelque chose de difficile. Et quelque part, c'est un miracle de Dieu. Il y a un moment où Dieu nous amène au Jourdain. On a tourné 40 ans, mais on aurait pu venir beaucoup plus tôt. Je peux dire une chose, c'est qu'un chrétien, pour être un adulte en Christ et être efficace dans sa vie chrétienne, au bout de 2 ans, on passe de l'enfance à l'âge adulte dans la vie chrétienne. On se convertit en une seconde. On passe de la mort à la vie. Mais la vie chrétienne, il y a une croissance. Et Paul disait, afin d'amener toute. Non, le verset ne me vient plus. Mais à l'état d'homme fait, que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et donc il y a une croissance. Et la croissance ne se fait pas en un jour dans un chrétien. C'est on grandit en Christ, on avance. On commence par être un bébé, puis un adolescent en Christ, et puis un adulte un jour, et on porte des fruits, et on amène d'autres, et on fait des disciples, et quelqu'un d'efficace dans l'Église. Mais je ne pense pas que ça prend plus de 2 ans. Comme pour le peuple d'Israël, en 2 ans, ils pouvaient être aux portes du pays et conquérir le pays. Mais ils ont tourné 40 ans. Et la plupart des chrétiens tournent dans leur vie chrétienne pour une seule chose. Ils ont décidé de ne pas fléchir le genou devant Christ tout de suite. C'est de ne pas reconnaître sa seigneurie. Et c'est la raison des fameuses 12 pierres. Il fallait prendre 12 pierres du désert et les mettre dans le Jourdain. Et sortir 12 pierres du Jourdain et les mettre de l'autre côté. Alors vous dites, c'est insensé. Du point de vue de la logique humaine, oui. Mais du point de vue divin, c'était un acte d'une parfaite sagesse. Et c'était l'image de quelque chose de très important. Il y a une vieille vie du désert, qui va dans le Jourdain et qui y reste. Et même, il est dit, hein, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Mais je peux vous dire, le peuple d'Israël n'était pas un peuple de marins et ils n'étaient pas des plongeurs non plus. Vous avez des versets qui laissent entendre que dès qu'on dépassait 1 mètre, on n'était plus. Hein, c'était l'abîme. Même quand il est parlé du passage du Jourdain, dans un psaume, il est dit, ils passèrent à travers l'abîme. La mer Rouge n'est pas un abîme. Hein. Mais pour eux, c'était l'abîme. Ils ont vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Le Jourdain, c'était pareil. Et les pierres, ils ne sont pas allés les chercher. Une fois qu'elles étaient au fond du Jourdain, elles y sont restées. Et ça, ce sont nos dispositions. Parce qu'il y en a 12 qui vont du désert, qui vont dans le Jourdain, il y en a 12 qui ressortent. Hein. C'est les mêmes, en fait. Mais ces 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Hein, mais on peut dire, ce sont vos qualités, vos talents, ce que vous êtes dans votre personne, votre personnalité. C'est cette vieille personnalité qui va dans le Jourdain. Mais c'est votre vieille personnalité meurt, mais vos talents, votre personnalité et tout cela sont renouvelés. Vous ressortez, vous n'avez, par exemple, hein, notre frère Romu joue bien de la guitare. Eh bien, avant sa conversion, il jouait bien de la guitare, peut-être, et puis après, il joue bien aussi. Il peut que s'améliorer même. Mais ce talent que Dieu lui a donné, il faut qu'il passe par le Jourdain, comme tout le reste. Et il faut qu'il ressorte à la gloire de Dieu. Excuse-moi, Romuald, de prendre un exemple. Je ne veux pas te gêner. Mais vous pouvez mettre votre talent et vos dons et vos capacités, vos sentiments, vos pensées, votre intelligence, tout ce que vous êtes, votre personne, eh bien, elle va dans le Jourdain. Et cette personne ressort du Jourdain, mais sanctifiée, purifiée de la vie du désert, purifiée de cette volonté propre, de cette indépendance vis-à-vis de Dieu, de cette capacité à gérer son propre moi, ses propres activités. On dit, Seigneur, c'est ce que j'ai, je te le donne. Et alors, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Vous lui donnez et il vous le redonne. Et alors vous en faites un monument sur le bord du Jourdain. Et c'est un monument à la gloire de Dieu. Et là, il y a un souvenir. Et quand les enfants viennent et disent, peut-être vos enfants, et vous disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et vous le dites parfois même à vos enfants spirituels. Un jour dans ma vie chrétienne, j'ai fait le choix que Jésus-Christ soit le Seigneur de ma vie. Et j'ai tout donné. Et tout. J'ai tout mis dans le Jourdain. Et Dieu me l'a rendu en nouveauté de vie, en sanctification. Ces choses-là ont été sanctifiées. Et je peux les utiliser à la gloire de Dieu. Je me rappelle d'un homme, c'est Sankey. C'est dans le livre, c'est son Nos Cantiques d'ailleurs. Quelqu'un lui avait dit, mais vous voulez pas nous chanter? Quelqu'un a dit, oh, mais vous n'êtes pas le grand chanteur avec Moody. Il a dit oui. Vous voulez pas nous chanter un chant? Il a dit, ah, ma voix ne laisse, je n'utilise ma voix que pour chanter des cantiques. Et il a chanté un cantique. Et c'est quelqu'un. C'était sur un bateau, je crois que c'est sur le Mississippi. Et la personne est sortie, il lui a dit, mais monsieur Sankey, n'étiez-vous pas tel jour à tel endroit lors de la guerre civile? Alors il dit, oui, en effet, j'étais en sentinelle. Ah, il a dit, moi j'étais dans le sud, hein. Vous étiez au bout de mon fusil. Et j'ai dit, ah, toi, c'est fini pour toi. Vous avez commencé à chanter. Alors, je dis, bah, je vais attendre qu'il avait une belle voix, je vais attendre qu'il ait fini de chanter. Et puis c'était le chant qu'il avait entendu et il n'a pas tué. Cet homme pouvait dire, ma voix, je ne l'utilise que pour la gloire de Dieu. Je me rappelle de Chinois dans un train, ils étaient tous chrétiens, et il y avait des Chinois non chrétiens. Ils ne voulaient pas jouer aux cartes. Ils avaient sorti un jeu de cartes, une valise posée, et puis les voyages, hein, étaient longs à cette époque. Ils ne voulaient pas jouer aux cartes. On dit, ah non, nos mains, on les utilise pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui sont données à Dieu. Et une fois qu'elles sont données, on ne les reprend pas. Elles sont là pour la gloire de Dieu. Nos pensées, notre voix, nos sentiments, nos regards, notre vie. Tout ce qui nous constitue, on l'a tout remis entre les mains de Dieu. C'est sous son contrôle, c'est sous sa domination. C'est l'histoire de ces pierres qui sont prises du désert, cette vie charnelle, et elles sont mises dans le Jourdain. Et Dieu sanctifie, sanctifie. C'est-à-dire met à part pour lui, pour sa gloire. Et je peux vous dire que il y a bien des hommes et des femmes que Dieu a utilisés, qui dans cette vie auraient une vie qui n'aurait pas été très productive pour l'Église et pour la gloire de Dieu, si elles n'avaient pas été livrées entre les mains de Dieu. Mais à partir du moment où elles ont vraiment été livrées, alors à ce moment-là, Dieu les a utilisées et a fait quelque chose de merveilleux. Satan vient toujours nous tromper et nous dire que nous allons faire un faux calcul, que nous allons faire un faux pas, que nous faisons quelque chose d'insensé. Je vous le dis parce que il me l'a dit, il me le dit encore. C'est l'insensé, ce n'est pas moi, c'est lui. Parce que lui s'est éloigné définitivement de Dieu. Si je mets ma vie entre les mains de Dieu, il n'y a rien de plus sage. Rien que Dieu attend plus que cela. Parce que tout le reste que je peux faire pour Dieu sans avoir donné ma vie, ça ne sert pas à grand-chose. Pour ne pas dire ça ne sert pas du tout. Je ne veux pas vous faire de la peine. Parce que je ne voudrais pas. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais à partir du moment où vous avez mis votre vie entre les mains de Dieu, que vous lui dites tous les jours, Seigneur, cette journée est dans tes mains, je te la donne. Utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, que je te glorifie à chaque instant, que chaque souffle, que chaque parole, que chaque regard, que chaque pensée, que les moindres détails de ma vie soient à ta gloire et portent du fruit pour l'éternité. Et vous ne savez pas, mais Dieu sait, il conduit, il sait toutes choses. Et si vous êtes dans sa main, à sa disposition, eh bien, il saura utiliser votre vie, parce que c'est lui qui sait bien diriger et qui sait bien conduire. Nous, humainement, nous sommes des insensés. Même si nous avons toute la sagesse possible, nous sommes insensés tant que nous ne mettons pas notre vie entre les mains de Dieu. Parce que nous sommes devant le pays de la promesse et nous restons à contempler le Jourdain. Et le Seigneur nous dit, mais quand c'est que tu vas le passer, ce fameux Jourdain? Quand vas-tu te décider à le passer? Et je peux vous dire, il vaut mieux tôt que tard. Parce que de toute façon, il faut le passer. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui restent toute leur vie sur le bord du Jourdain à attendre un événement qui n'arrivera jamais. Parce que c'est dans leur. Eux, il faut qu'ils aillent dans le Jourdain, qu'ils posent leurs pieds dans le Jourdain. Et alors là, le miracle s'accomplit. Mais tant qu'ils n'ont pas fait ce pas-là, ils ne seront jamais de l'autre côté. Parce que le miracle, Dieu est prêt à faire un miracle, mais à condition qu'on mette le pied. Si on ne met pas le pied, Dieu ne le fait pas, le miracle. Hein. Il ne va pas nous dire, tiens, regarde, je l'ouvre devant toi. Tu as bien fait d'attendre 20 ans, hein. Je l'ouvre maintenant devant toi. Il ne le fera jamais. Il faut qu'on aille. Et qu'on dit, Seigneur, je te remets ma vie, je veux le passer le Jourdain. Et ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est toujours un moment très important. Où il y a un combat, hein. C'est une lutte, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si quelqu'un dit c'est facile, c'est qu'il ne l'a pas fait. Hein. C'est celui qui n'a jamais donné sa vie à Dieu. Toujours que c'est très facile, les paroles sont belles et les paroles nous enthousiasment, mais le jour où on prend la décision de le faire, je peux vous dire qu'il y a une lutte entre votre moi égoïste et Dieu, entre Satan, qui veut absolument vous captiver et vous empêcher d'être efficace et de glorifier Dieu, qui veut vous faire perdre votre temps, qui veut vous faire perdre votre vie. Mais à partir du moment où votre vie est dans la main de Dieu, alors à partir de ce moment-là, vous passez le Jourdain, vous êtes de l'autre côté. Et ce que vous aviez, parce que Satan vient, une de ces mauvaises pensées qu'il met dans notre cœur, c'est que à partir du moment où nous aurons passé le Jourdain, et Dieu va nous priver de tout. Vous aviez telle capacité, bon, ça, de toute façon, il ne faudra plus le faire. Hein. Et telle chose, non, ça, c'est vraiment. Et on va rester là à genoux, à prier et rien faire. Ou plutôt que prier. Mais dans cet esprit, on est trompé, hein, dans cette pensée, on est trompé, parce que on croit que Dieu va nous priver. Mais si Dieu vous a donné des dons, eh bien, c'est pour que ces dons soient remis entre ses mains et que lui-même puisse les exploiter. Vous regardez, vous verrez dans l'Apocalypse, les 24 vieillards, ils jettent leur couronne aux pieds de Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur couronne, mais leur couronne est aux pieds de Christ. Il est probable qu'après, ils les reprennent, les couronnes, mais elles sont mises aux pieds de Christ, c'est-à-dire elles sont données à Christ, livrées à Christ. C'est-à-dire les couronnes, c'est plus que des couronnes, c'est des royautés. Leur pouvoir est remis à Christ. Et c'est comme cela que les choses se passent. C'est le Dieu veut nous donner. Il veut nous donner et nous combler infiniment plus. Tous nos petits calculs, ce sont ce qu'on appelle des calculs d'épicier. Vous additionnez des centimes et vous mettez des virgules et vous mettez des zéros et vous mettez des choses et puis vous dites, mais je vais perdre, je vais perdre. Mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Vous savez ce que vous allez perdre, ou plutôt vous pensez à ce que vous allez perdre, et ce n'est pas forcé que vous allez le perdre. Ce que vous allez perdre d'une manière certaine, c'est votre indépendance. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas une grande perte. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas si dépendant que ça, indépendant que ça. Vous êtes toujours dépendant de quelque chose. Vous êtes dépendant du monde, vous êtes dépendant du péché, vous êtes dépendant de la vie des autres, vous êtes dépendant de beaucoup de choses. Mais à partir du moment où on se soumet à Christ, alors là, comme dit Paul aux Galates, là est la vraie liberté. Vous êtes affranchi. C'est appartenir à Christ, obéir à Christ, être soumis à Christ, être complètement livré entre les mains de Christ, c'est là qu'est la vraie liberté. Parce que nous sommes affranchis du péché, de nous-mêmes, de ce monde. Nous avons une autre vision, une autre perspective. On voit d'autres choses, on a d'autres mobiles. Et je peux vous dire, la paix que Dieu nous donne quand nous marchons à sa lumière, que nous marchons dans sa dépendance et dans sa volonté, est tellement grande et tellement merveilleuse que ce n'est même pas, il n'est même plus question de ce que vous risquez de perdre. C'est plutôt ce que vous gagnez, qui est infiniment meilleur et infiniment plus merveilleux que tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, le dernier verset. Verset 24. Afin que tout le peuple, les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Et quand on a tout remis entre les mains de Dieu, alors les autres le savent. Il y a quelque chose qui se passe. Je me rappelle, ce n'était pas. Il y a eu un moment dans ma vie où le Seigneur Jésus a pris la première place. Mais il y a eu un jour où j'ai découvert une chose extraordinaire. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça prendrait un peu de temps. Mais le Seigneur m'avait tellement béni. Il a fait du bien à mon âme. Hein. Quelque chose d'immense et de merveilleux. Et c'était le samedi. Le dimanche, j'ai garé ma voiture sur le parking. C'était à Limoges. J'ai garé ma voiture sur le parking. Et puis, j'ai marché jusqu'à la salle. Et le pasteur était devant sur le trottoir et il me voit arriver, il me dit Jeanlin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui dis, comment tu sais ce qui s'est passé? On me dit, mais ça se voit, ça se voit. Tu as rencontré le Seigneur, tu as fait quelque chose, il s'est passé entre le Seigneur et toi quelque chose, ça se voit. C'est quelque chose, vous savez. Moi, je ne me rendais pas compte. Mais il y a quelque chose qui émanait de cette communion avec le Seigneur, de cette paix parfaite. On ne sait pas. Nous, on croit que tout est normal, personne ne voit rien. Mais vous êtes là incognito sur votre trottoir, vous marchez tranquillement. Mais non, les peuples de la terre vont le savoir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est mis en harmonie entre Dieu et vous. Vous avez changé vos perspectives. Votre vie est différente. Vous êtes maintenant vraiment des étrangers dans ce monde. Ce monde ne vous reconnaît plus comme une partie de lui-même. C'est peut-être parfois c'est même là que commencent les persécutions. Mais combien c'est merveilleux que de pouvoir avoir la paix parfaite avec le Seigneur.